Est-ce que ça fonctionne?
Ok, majorité. France. Combien de personnes viennent de France?
Ooh, come on, France.
Allez, la France, allez. L'Angleterre.
Voilà. Maybe via
peut-être England, via sorry, l'Angleterre, de combien?
Okay. Anybody from Ireland?
Est-ce qu'il y a des gens d'Irlande?
Didn't think so.
Non, je ne pensais pas.
What are the countries? Anybody from Australia?
Est-ce qu'il y a des gens d'Australie?
G'day,
mate. Eh ben, dis donc. G'day, mate.
Anybody from Scotland?
Il y a des gens d'Écosse.
Okay. Any countries I'm missing? Who did I not represent?
D'autres pays que j'ai pas représenté.
India.
L'Inde.
Okay. Korea.
La Corée.
Austria. G'day, mate. Kidding.
Australia. L'Autriche. Non.
I do that every time and nobody gets it. Singapore.
Singapour.
Colombia.
Colombie.
Nice. Anybody else that I missed?
Indonesia. L'Indonésie.
Okay. The translator at the back. Hello.
Hello. Bonjour, la traductrice.
Can everybody understand me, first of all? Understand
Est-ce que tout le monde comprend mon accent? Est-ce que tout le monde comprend que quand je parle moins rapidement? Parce qu'il n'y a pas de sous-titres ce matin.
Hang in there.
Donc, tenez-vous bien.
Me and my wife, this is Val. Do you want to stand up, Val, and say hello?
Ma femme, Val, bonjour.
Val is from Wisconsin.
Elle vient du Wisconsin, aux États-Unis d'Amérique. Et moi, j'aime bien toujours dire que nous sommes un foyer divisé par une langue commune.
I'll be back in just a second. I'm going to take my rucksack and put it in the boot of the car. And she'll be like, what? Oh, I'm sorry.
Je reviens dans une seconde. J'amène mon sac à dos et le mettre dans le coffre de la voiture. Mais c'est des mots différents en anglais américain et en anglais british. Alors, ouais. C'est un peu difficile. Et aujourd'hui, c'est notre troisième anniversaire de mariage. Il y a toujours beaucoup d'applaudissements quand je parle de notre relation. On aime beaucoup Strasbourg. On est arrivé vendredi et on dort chez Carl et Janet. Cet après-midi, on s'en va. Mais on vient de l'Église internationale de Paris. Alors, nous avons eu le nom en premier, mais j'ai vérifié avec mes gens et vous pouvez encore continuer à vous appeler l'Église internationale de Strasbourg. On vous l'autorise. Ça fait tellement du bien de venir ici. Attention, je mets juste ma montre. Cette ville est plutôt comme un village. On vient de Paris et quand je viens ici, je dois passer de la sixième jusqu'en troisième. Je vais pour acheter des courses et je suis prêt à me battre dans cette file des courses ou à la SNCF. En fait, les gens sont cool. Mais en fait, à Paris, c'est la folie. Les gens, c'est tué ou soyez tué. Mais ici, ça redevient normal, c'est cool. Je pense que ça, c'est une de mes cinq villes préférées pour la retraite.
So Val a travaillé pour la dénomination de Christian Missionary Alliance.
Elle fait tout ce qui est comptabilité pour l'Europe et le Moyen-Orient. Et moi, je suis pasteur associé et stagiaire avec l'Église internationale de Trinité de Paris. Et c'est pour dire je ne suis pas qualifié pour rien du tout, sauf que je suis qualifié par Jésus pour faire des choses. Et ça, j'aimerais bien vous parler de ça ce matin. Dieu travaille dans ce pays d'une manière vraiment incroyable, qui vont au-delà de notre imagination.
On est venu d'un
voyage en Croatie. Dieu est en train de faire des choses là-bas, des villages tout entiers qui viennent au Seigneur de manière tellement incroyable et surprenante. Et pour nous, c'est difficile quand on est dans notre petit monde et notre bulle de croire cela. Mais je suis là pour vous dire que oui, il est en train d'œuvrer dans nos villes, dans nos églises, dans nos écoles, dans nos endroits de travail. Soyez encouragés. Dieu fait des choses incroyables. En arrivant vers ce dimanche, j'avais mon idée de sermon, c'était trouver votre but, votre objectif. Et j'allais vous donner toutes ces idées sages sur comment faire. On pourrait faire ceci, et théoriquement et au niveau pratique, on a tout faire cela, on a tous un but. Et j'avais vraiment l'impression que c'était complètement bidon. C'était juste blablabla. Ça sonnait pas bien en mon être. J'avais l'impression que c'était forcé, que c'était pas authentique. Et je pense que ça avait cette sensation-là parce que je viens aujourd'hui vers vous à partir d'un endroit de difficulté. Cette semaine était difficile pour moi. Et j'ai vraiment... Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et on s'est levé le matin, on a été jusqu'en Allemagne pour acheter toutes les choses qui ne sont pas chères là-bas, comme on peut le faire. Gel douche, les céréales, le shampoing, tout ce qu'on paye au moins trois fois plus à Auchan ou Leclerc. On a été là-bas, on est revenu à Strasbourg et on a mangé à midi. J'ai eu tellement d'émotions, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je me sens comme un volcan de quelque chose qui va exploser. J'étais tellement, tellement stressée, tellement anxieux. On est retourné chez les Emerson, j'ai mis de la musique de louange et je suis tombée vraiment sur mon visage et j'ai pleuré. Je sais, c'est sorti de moi vraiment comme hier soir, comme le torrent de pluie. Et ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. J'ai pleuré et pleuré et pleuré. Et j'ai juste demandé à Dieu, mais s'il te plaît, enlève la douleur. Enlève ce fardeau que je ressens. Je ne peux pas gérer ça tout seul. J'étais tellement, tellement dans l'émotion. Et Dieu m'a parlé à partir de 2 Corinthiens. Si vous avez votre Bible, moi je n'ai rien sur l'écran. Si vous avez votre Bible, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10.
2 Corinthiens 12, versets 7 à 10.
Et Paul parle et il dit, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper, m'empêcher de m'en obéir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Et voilà, c'est cette partie-là qui m'a complètement étalée par terre. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand je suis fort, j'admets que c'est la plupart du temps. Genre, moi, je suis un fonceur. Allez, on y va, on va de l'avant, qui vient avec moi. Mais quand on lit ces paroles-là, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on est fort, c'est des mots sur une page. On dit, ouais, c'est la parole de Dieu, c'est génial. Mais quand on est à genoux en train de supplier Dieu, pour qu'il vienne à votre rencontre et qu'il vienne de cette manière-là, là, tout a changé pour moi hier avec ces paroles, mais complètement. Je les avais lues auparavant, mais l'impact de ces paroles a été incroyable. Avant, j'essayais de faire plein de choses, mais ça, c'était une posture juste de révérence. Une posture, comme on dit dans la Bible, on doit pas une peur de Dieu, mais
être
devant Dieu à genoux sur notre visage. Et là, les Emerson habitent près de la rivière et il y a tellement, tellement plein d'arbres et il y a plein de petites choses comme du coton qui vole. Et il y avait une lumière qui arrivait du ciel à travers ces arbres-là et tous ces petits bouts de coton remontaient vers le Seigneur. Et là, j'ai senti la présence de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Et je savais que c'était parce que je m'étais mis dans ma faiblesse, par terre, à genoux, en disant, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça à travers mon intelligence. Je ne peux pas me lever et être drôle et faire différents accents. J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit.
So I'm here, but
alors me voici.
I want to kind of explain this morning a bit of
je vais un peu expliquer
how I
ce matin
got here.
De comment je suis arrivé
so
ici.
I grew up in rural Ireland,
j'ai grandi en Irlande, dans une famille catholique
sure
de tradition.
Many of you in France, you know
j'imagine que beaucoup d'entre vous ici en France, vous connaissez le catholicisme. C'est,
énorme,
c'est 100% religion, pas beaucoup de,
routines,
pas beaucoup de relations. Une des choses que l'on apprend quand on est catholique, on n'apprend pas le message, on apprend juste quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut se baisser, quand est-ce que...
Alors
lui, il s'est levé alors qu'il aurait dû s'asseoir, ah là là, il est nul lui. Donc je me suis, j'ai été élevé dans une famille catholique avec deux frères et deux sœurs. Mon père était alcoolique. Mes parents étaient assez agressifs, mais bon, ça c'était la norme. Donc, j'ai fait la communion, j'ai fait la confirmation. On nous a donné le choix à 14 ans si on voulait continuer à aller à l'église. Et je me suis dit, attendez voir. Dieu est grand et magnifique et puissant, mais toi, tu es en train de me dire qu'un mec qui était un peu habillé en robe et qui sent de l'encens, que c'est à travers lui qu'il faut que je passe pour arriver à Dieu, ça c'est non, c'est pas possible. Lui, il a la Bible, on écoute. Il n'y a pas de connexion pour moi. Là où j'ai été élevé, c'est une minuscule village en Irlande. Il y a la poste, il y a une boutique, un pub et une station essence. Et ils sont tous gouvernés par la même famille. Et on va chercher à la poste, on voit la frère, et on va à la boutique, on voit le frère. Et le gars qui fait l'essence, le même gars qui te fait l'essence, va te donner une bière, et on lui demande s'il a lavé les mains. Quoi. En gros, je suis partie de là. J'étais en Australie quand j'avais 22 ans. Quand j'avais 22 ans, j'ai fait la fête, le sexe, les drogues, rock and roll. J'ai survécu là-bas, je suis revenue en Irlande et je me suis dit, il n'y a rien ici non plus, je vais aller à Londres. C'est là où un de mes amis. Et j'étais à Londres et c'était encore plus fou. J'ai travaillé dans un bar, dans un restaurant, je faisais de la cocaïne tous les soirs. J'arrivais à un restaurant, je manageais un restaurant où il y avait les gens de Coldplay, de U2 qui venaient manger, drogue tous les jours, je buvais tous les jours, alcoolique. Je me suis mariée avec une femme que j'ai rencontrée là-bas, une Française. On s'est mariés, j'ai eu deux enfants et je continue à faire la fête non-stop. Et je suis arrivée à un moment où j'ai eu une attaque ou quelque chose et le médecin me montre sur l'écran, on me dit tu vas mourir, début de cirrhose, c'est pas possible, vous n'allez pas continuer à vivre comme ça. Et donc je suis sortie de l'hôpital et j'ai été au bar pour célébrer. J'ai été aux alcools anonymes. Et ça n'a pas marché non plus. Et ma femme a dit, mais si jamais, moi je demande un transfert en France, et lui s'est dit, ouais, c'est parfait, je change tout, je vais dans un nouveau pays, tout ira mieux. Mais en fait, là où j'allais, c'était toujours moi. Je suis partie de l'endroit où je vivais avant, à Londres, Notting Hill. Je gagnais une somme astronomique d'argent. Je faisais plus d'argent que tout Strasbourg ensemble, je ne sais pas, mais je m'en foutais complètement. Donc j'ai laissé tout ça et je suis allée à Paris. Et tout ce qui était alcoolique est passé par le chercheur. C'était de pire en pire. Ma femme et moi, on s'engueulait tout le temps. Ma fille a été diagnostiquée avec un autisme. On vivait sous le même foyer, mais ma femme et moi, on était en chambres séparées. Et un jour, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un moyen pour sortir de cet enfer. Si je me tue, je sortirai de tout ça. Je vais me suicider. Parce que je sais que ça sera vraiment difficile pour les gens autour de moi, mais ça sera mieux. On était à un barbecue pour l'anniversaire de ma fille, elle avait 3 ans, c'était en août 2010. Et nous étions en train de rentrer du barbecue et je m'étais vraiment rendue complètement débile devant la famille de ma femme. Quelqu'un m'a trouvée dans un coin avec une bouteille de whisky à la main, c'était vraiment moche. On était en train de rentrer de la voiture, on rentrait de Chartres. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vais me tuer. Aujourd'hui, je vais me suicider. Alors, je suis rentrée, mes enfants étaient là. On était séparés, mais on attendait juste que le divorce se finalise. Et on habitait encore sous le même toit, c'était génial. Mais j'avais la solution. C'est bon. J'ai été à la cave chez moi. Je suis un coureur. J'ai trouvé la corde. J'avais différentes bières. J'en ai bu quelques-unes. Je l'ai mis dans mes shorts. Et j'ai dit, je vais courir, je reviendrai, je ne sais pas quand. Et mon fils est venu me voir, il avait 6 ans. Et j'ai mis mon... Je lui ai fait un grand câlin et je lui ai dit au revoir. Je savais que c'était la dernière fois que j'allais le voir. Et j'espérais qu'un jour, il aurait un père ou une figure qui l'inspirerait pour être l'homme que je n'arrivais pas à être. Je n'arrivais pas à être... le père qu'il avait besoin que je sois. Et je suis montée à la forêt. J'ai trouvé deux arbres. J'ai mis la corde sur une branche. J'ai bu encore d'autres bières. Et moi, j'y vais à fond. Si je bois, peut-être que je ne sentirai pas la douleur. Et je me suis assis sur la branche avec la corde autour du cou. Et j'allais juste sauter et une voix m'a dit non. C'est pas cette manière-là pour toi. Et je me suis dit, mais qui est-ce que c'est qui... J'ai pas dit le gros mot auquel je pensais, vous savez lequel c'est. Mais j'ai eu une vision et devant moi, il y avait une femme avec un chien qui passait. Et moi, je pendouillais de cet arbre. Et j'ai vu un autre homme en tant que le père de mon fils et je me suis vu moi comme une photo sur la cheminée et ça m'a fait trembler. J'ai enlevé la corde, je suis redescendue sur la digue un peu dans la forêt et j'ai crié et prié et prié. Et je suis retournée à l'appartement et je suis retournée à la misère et encore pendant 3 mois la misère m'a poursuivi. Et ma femme travaillait à l'international, elle allait à Dubaï très souvent. Elle est partie et j'avais la garde de mes deux enfants et j'ai acheté 32 canettes, les grandes canettes de 500 millilitres. 32 canettes de bière et j'ai bu toute la journée et toute la nuit avec mes enfants, complètement endormie. Je me suis réveillée le lendemain, samedi à midi. Ils pleuraient parce qu'ils avaient faim et je me suis sentie comme la mort. Je me suis sentie comme si j'étais du poison. J'espérais être mort. Et il m'a regardée et m'a dit en français, « Papa, s'il te plaît, arrête-toi de boire, je ne veux pas que tu meures. » Et j'ai su que c'était fini. Je savais immédiatement toutes les réunions de AA, d'alcool anonyme. Je savais à ce moment-là que c'était terminé. Je suis allée acheter 3 bières juste pour essayer d'arrêter petit à petit. Et ma mère est arrivée et j'ai arrêté d'un coup l'alcool pendant 6 jours non-stop. J'ai rien bu du tout et c'était l'enfer. Si vous connaissez un tout petit peu l'addiction, vous savez combien c'était difficile. Je ne sais pas ce qui vient après. Mais je vais remettre ma vie sur pied. Et ce que je ne savais pas, ça j'ai compris plus tard, dans le futur, c'était Dieu, j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait quand j'étais sur cet arbre, quand j'étais dans cette chambre avec mes enfants. Alors, j'étais sur un site web où on calculait combien on courait. Moi, je cours plus que toi. Voilà, et en fait, c'était un endroit. Je me suis dit, à travers ce site, il faut que je rencontre les gens qui courent. Je connais personne qui parle anglais. J'ai besoin d'amis. Les gens français, ils ne savent même pas faire la queue au supermarché. Je ne peux pas être ami avec eux quand même.
C'est pas gentil, hein, mais doucement. Hein. And I see this image of this guy.
Et je vois cette image, une photo d'un gars normal qui a l'air sympa. Je clique sur son nom et on devient amis. Et ce gars s'appelle Tim Mayer. Peut-être que vous le connaissez. Il avait 29 ans à l'époque. On s'est rencontrés après l'une de nos courses. Je l'ai rencontré lui et j'ai rencontré un autre gars qui s'appelait Mark Brinkman, qui certains d'entre vous connaissaient. Il était juste génial. Il aimait bien la musique comme moi, il était guitariste comme moi. On a parlé plein de fois, on allait manger ensemble tous les mardis. Toutes les deux semaines de mardi. Et après, il m'a dit qu'il était pasteur. Et je me suis dit, quoi ? Non. Mais vas-y, où est ta robe et ton petit chapeau, là ? Mais toi, tu vas contre tout ce qui est la norme. Tu ne ressembles pas du tout à un pasteur. Mais il ne m'a pas tapé sur la tête avec la Bible ou avec des versets bibliques. Il m'a juste aimé. Il m'a vraiment, vraiment à 100% aimé à travers ses actions, à travers le fait qu'il a pris soin de moi. Et quand je faisais ou que je disais des choses complètement débiles, stupides, il était patient avec moi. Il était bien intentionné. Et à ce moment-ci de ma vie, j'étais en train d'enseigner les gens de des entreprises à parler anglais. Comment parler en anglais. Et ça, franchement, c'est un temps plein pour dire c'est close, pas closed. Toute la journée. Il y a énormément. Je ne me fous pas de la tête des Français. J'aime les Français, mais c'est closed, pas closed. Et un jour, il m'appelle et il dit hey, je suis en train de faire la louange à l'église. Est-ce que tu veux venir? Et je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, mais s'il y a à manger et du café, quand on est divorcé, on a envie de voir des gens boire du café et manger de la nourriture bonne. Et je vivais seul avec mes deux enfants dans 12 mètres carrés. C'est très intime, on va dire. Il arrive à cette église, il y a une batterie et tout, il y a de la musique, c'est génial. Et ce gars d'Ohio, de l'Ohio, de l'État d'Ohio, il a du mal dans son mariage à ce moment-là. Et il était cool, lui aussi, ils étaient tous cool. Mais c'est quoi ce truc? C'est génial, ils ne vont pas à l'église en train de bouger dans l'allée. Ah, moi, j'ai des meilleurs habits que toi, moi, je suis mieux que toi, ouais, je suis mieux que toi aussi. Non, c'est des gens cool et authentiques. Ils font de la musique, j'adore la musique, on boit du café. On revient à Todd, de l'Ohio. Il parle ce matin-là, il dit, j'ai du mal dans mon mariage. Je suis brisé. Je ne suis pas le meilleur papa du monde, mais Jésus m'aime. Et j'ai dit, pardon, tu peux répéter? C'était révolutionnaire dans le fait que c'était si simple. Je suis toutes ces choses-là, mais Jésus m'aime. Je ne suis pas mon frère, je ne suis pas mon père. Je suis moi, et moi, dans mon unicité, je suis aimé de Jésus. Et je me suis dit, il est cool ce club. Allez, on va essayer, on va tenter. Donc je continue à aller à l'église là-bas. Et je vois tous ces gens qui sont en train de la dire, Jesus, Jésus. Et je me dis, ouais, moi je fais pas ça. Moi je me tiens là et je vais aller. Je suis un chrétien cool. Moi je vais chercher le café. Ouais, mon frère pasteur, génial ce que tu as dit ce matin. Mais les Jésus, les fous de Jésus, là, ça ne va pas du tout. C'est les Américains qui sont comme ça. Nous, en tant que catholiques bien élevés, jamais de la vie, on ferait ça. Et après, il me dit, est-ce que tu veux participer à l'équipe de louanges? Ouais, c'est génial, je vais faire de la batterie, je suis au centre de l'attention, il n'y a personne qui me regarde en fait. Tout le monde lève les yeux vers Jésus et c'est à Jésus. Et j'étais en train de me dire, mais non, mais c'est... Et quand je disais plein de gros mots quand je me trompais, et il regardait, il me disait, mais d'où il sort ce mec? Mais il m'aime, il continue de m'aimer. Je fais encore partie du club et il y a une moto qui me rentre dedans hein, quand je suis à vélo. Je vole et mon pied rentre dans la roue arrière de la moto. Et je suis en train d'être tiré sur la rue à travers Boulogne-Billancourt. Et le gars s'arrête, enlève ma chaussure de la moto et lui, il continue. Et attends, là, Dieu, moi, je fais partie de ton club, je vais à l'église, tout va bien. Et c'est comme ça que tu me traites. Et bien sûr, maintenant, je ne peux plus courir. Je boite de partout. Mais je continue quand même à continuer dans ce club. Et il y avait un pasteur des États-Unis qui est venu. Un pasteur qui s'appelle Ron, et il vient et il parle de la guérison. Il y a plein de gens qui sont guéris. Une femme, elle avait un cancer, et ce gars-là, il avait la jambe cassée. Et je dis, ouais, ça c'est une jolie histoire d'enfant, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas. Il me dit, est-ce que quelqu'un ici veut la guérison? Et je me dis, ouais, moi j'ai besoin de guérison. Mais je ne vais pas me lever. Et après, tout d'un coup, je me trouve en train de debout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je me suis mis debout? Et encore 7 autres personnes se lèvent. Et il dit, OK, je veux qu'il y ait des gens de l'Assemblée venir et de prier pour ces gens-là. Et un couple vient avec leur fils. Et le fils, il ressemble aux deux. C'est logique, OK. Il prie pour moi, et le chant qui est en train de jouer, le chant qu'ils sont en train de faire, c'est « Jésus brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes », et il prie le feu sur moi. Et je sens vraiment une chaleur entrer dans mon cœur, et ça devient de plus en plus chaud. Mon cœur commence à battre de plus en plus fort. Et je me dis, je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Et bam, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Silence de la mort. Et je me suis dit, ça c'était comme jamais, j'ai rien vécu de toute ma vie comme ça. Je pleurais un fleuve de larmes et j'étais un peu à moitié en train d'être debout et j'avais des larmes et mon nez coulait et j'étais complètement, ça c'est mieux que toutes les drogues que j'ai toutes fait de toute ma vie et j'en ai fait beaucoup. Alors je rentre chez moi. Je rentre à mon petit appartement de 12 mètres carrés et j'allais regarder la télé de Breaking Bad pendant toute la soirée, mais j'ai regardé le mur pendant quelques heures et encore quelques heures. Pendant 4 heures, je suis sorti de cette sorte de rêve et j'avais faim. Ça, c'était trop bizarre. Il faut imaginer, ça fait 7 mois que je n'ai pas couru. Et pour moi, courir, c'était la seule chose qui me garde de ma, droit. C'est mon salut quelque part, parce que ma fille est autistique et j'ai tellement de problèmes, et courir, c'est mon salut. Le lendemain, le matin, je me suis levée, je me suis dit, je vais essayer de courir. Les docteurs m'avaient dit qu'il n'y avait plus rien, mais j'arrivais quand même pas à courir. Et quand je me suis levée pour être guérie, j'avais demandé que mon cœur soit guéri plus que mon pied.
Je sentais que c'était comme un cancer dans mon cœur. J'avais besoin d'un chirurgien qui me répare de ce cœur. Et le lendemain, j'ai couru 10 kilomètres. Et après 12 kilomètres. Et le jour d'après, et petit à petit, j'étais en train de dire à Tim, c'est incroyable, ce gars, il est arrivé, il m'a guéri. Il a dit, non, c'est pas Ron qui t'a guéri, c'est Jésus qui t'a guéri. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok Seigneur, c'est bon, je suis avec toi. Toi, t'es le meilleur. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Moi, je vais me donner entièrement à toi, à ce truc. Je vais tenter ta manière. J'ai continué à aller à l'église. Je faisais encore plein de choses avec l'équipe, l'église de Christian Missionary Alliance. Et à Thanksgiving, un jour, j'ai vu une femme rentrer dans ce groupe. Et mon cœur n'a pas arrêté de battre, mais elle ne voulait rien savoir. J'avais besoin d'énormément de choses, de travail sur moi. J'ai commencé à écrire plein de lettres. J'écrivais des épîtres. Oh, j'aurais cette femme, j'aurais son cœur. Elle me répond, je lui réponds. Et il y a des énormes enveloppes qui arrivent toutes les semaines. Et elle dit, ouais, tu sais quoi, je ne veux pas être avec toi, en fait. Et je me suis dit, ok, bon. Ça sera comme ça, dommage. Je
ne
vais pas continuer dans trop de détails. Dieu nous a travaillé notre cœur séparément, nous a ramenés ensemble. Et sans aucun doute, elle est la plus grande bénédiction de ma vie. Je t'aime tellement pour ta grâce, ta patience, ton encouragement dans tout ce que je fais. Alors je continue à marcher avec cette équipe de l'Église. Je suis de plus en plus... on me donne de plus en plus de responsabilités. Et l'année dernière, j'ai senti que le Seigneur m'appelait vers le ministère. Et je me suis dit, je veux être Tim pour quelqu'un d'autre. Je veux être ce gars-là pour quelqu'un d'autre. Je veux aimer les gens jusqu'à ce qu'ils comprennent. Je veux juste les écouter. Peut-être manger avec eux de temps en temps, mais vraiment les écouter, les aimer. Et une des choses qui me retenait, c'est qu'il fallait que je trouve mes propres fonds. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va payer pour que moi je fasse ce truc-là. C'est juste pas possible. Et Dieu m'a réveillé à 4 heures du matin. Il m'a dit, tu vas aller voir ton pasteur, tu vas lui dire ceci et ça va se passer comme ça. Ok, j'y vais. J'ai un rendez-vous avec mon pasteur en novembre de l'année dernière. Il m'a dit, parfait, j'ai un rôle pour toi. Tu peux faire cette évangélisation, tu peux être un associé, tu peux connecter les gens entre eux à l'église. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé ici devant vous. J'ai fait confiance au plan de Dieu pour moi. J'ai fait confiance que dans ma faiblesse, il me rendrait fort. Ce qui est chouette, c'est qu'on voyage beaucoup, on rencontre plein de gens, mais il y a vraiment aussi eu des difficultés parce que je dois lâcher prise sur plein de choses. C'est génial de faire les choses pour Jésus, mais parfois, on veut les trucs cool, un peu de la gloire de Dieu qui soit sur nous. Je veux que toi, tu aies l'air génial, Jésus, mais j'aimerais quand même aussi l'air bien à côté.
Hein.
Et juste en 2016, l'année dernière, il m'a brisé jusqu'à absolument rien. Il a dit, toute la gloire est la mienne. Ton boulot, c'est de sortir et d'évangéliser, de montrer la gloire que je suis.
Et
je suis en train d'apprendre petit à petit, mais pour retourner à cette faiblesse, la culmination, le point fort de cette semaine, c'est de dire que... Mon fils a 13 ans, ma fille a presque 10 ans, elle est autiste, j'essaye de faire, de la protéger, d'être là pour elle, et je me suis épuisée. Et hier après-midi, c'est arrivé jusque à la limite où je me suis dit, encore une fois, je te la redonne, je n'arrive pas. Nous nous tuons nous-mêmes avec des choses à faire et des stratégies et de la vision quand tout ce qu'on a à faire, c'est s'asseoir avec Dieu tous les jours et dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» On le cherche, mais on le cherche dans tous les mauvais endroits. Et quand j'étais à genoux et je me suis relevé, qu'est-ce que je dois faire avec cette faiblesse? Tu m'as donné cette parole, mais comment est-ce que j'avance pour que je puisse avoir un ministère et être juste un bon, je sais pas, être un bon invité? Et il m'a donné le passage de Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 28. Les premières paroles sont « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ?» Attends, est-ce que tu me parles à moi ? Bah oui, mais tu me parles à moi. « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ?» C'est le Dieu d'éternité, d'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Nous avons besoin de nous attendre à lui et de mettre notre espoir en lui. Et attendre, c'est vachement difficile. Tom Penny, le grand philosophe, a dit une fois, attendre, c'est la partie la plus difficile. C'est vraiment la plus difficile de s'attendre à lui. Comment est-ce que je peux dire ça? Il y a deux manières d'attendre. On peut attendre de manière passive, ou on peut attendre de manière active. L'attente passive et active sont opposées. On sait comment attendre passivement. On est impatient. On touche un bouton et ça apparaît. Si on, c'est à travers notre téléphone que l'on commande à manger, c'est à travers notre GPS que nous amène quelque part, on peut télécharger un album de musique en 5 secondes. On peut regarder des milliers de chaînes de télévision. On peut faire une donation vers une charité sans rien faire, juste cliquer sur un bouton. Et on attend des choses en retour. Moi, en tout cas, je sais que j'attends. Bah, j'ai fait ceci, alors j'ai fait X multiplié par Y, donc ça devrait être égal à Z. Je devrais avoir un karma un peu plus grand. Attendre de manière passive est vraiment un poison. C'est comme un poison, ça nous empoisonne au plus profond de nous-mêmes. Parce qu'on devient cynique, on devient amer, et après on ne fait rien, on n'est pas actif, on ne cherche pas ce que Dieu veut pour nous. Attendre de manière active est complètement différente. C'est là que l'on cultive de bonnes habitudes, une posture d'attente, d'expectative, pas l'expectative que l'on reçoive quelque chose, mais qu'il va agir. Je sais que vous savez tout cela déjà, mais Dieu ne dit pas « fais quelque chose pour moi ». Il est là avant que l'on arrive et il sera là après que l'on s'en aille. Il est en train de dire « je fais quelque chose de génial ici, tu veux venir me rejoindre ? Tu veux me joindre là-dedans ?» Bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Être investi dans la parole de Dieu, être investi dans une communauté, c'est une des meilleures formes d'attente active que je connaisse. Parce que quand il nous appelle, alors on est prêt. On est déjà dans cette posture d'être préparé. Et en tant qu'Église, nous avons besoin de ne pas être juste un club. D'accord ? Il ne faut pas qu'on soit un club. Il faut qu'on soit un mouvement avec une mission qui recherche les gens sur les côtés, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans nos entreprises. L'Église, c'est génial. J'aime bien l'unité que l'on a en tant que corps de Christ, mais à moins que l'on amène ça à l'extérieur et d'être ce mouvement pour chercher les gens qui ont besoin de lui, alors on est juste un autre club. Et quand on est en France, on peut philosopher et avoir un débat avec les gens toute la journée. Mais c'est tes actions, c'est la manière dont tu vis, ta posture existentielle quelque part. C'est ça qui va amener les gens vers lui. C'est ça qui m'a donné envie de participer. J'ai entendu une histoire, une femme qui était dans le massacre cambodgien, et parce que une infirmière chrétienne a pris soin d'elle, elle a pu retourner au Cambodge et aider dans tout ce qui était le trafic sexuel là-bas. On est appelé à être. Jésus n'était pas tout le temps avec ceux qui étaient baptisés. À sa table, il y avait des prostituées, il y avait des pharisiens. À sa table, il y avait des collecteurs d'impôts. Et si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous appelle à faire, mettez-vous dans cette routine journalière, quotidienne, de dire comment est-ce que tu peux m'utiliser. Et chacun, on a quelque chose qui nous gêne. Peut-être que certains d'entre nous sont célibataires et ont prié pour un mari. Peut-être que certains d'entre nous sont un couple et ont prié pour un enfant. Et d'entre nous prient pour un nouveau boulot parce qu'on ne s'entend pas avec notre chef. Ou on veut des amis. C'est Trump qui nous appelle là?
Come to Jesus, Donald. Come to Jesus.
Viens à Jésus, Donald. Viens à Jésus.
His timing.
Le temps de Dieu est parfait. Je sais que les gens le disent souvent, mais son timing, il est toujours à l'heure. Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais en retard. Toujours à l'heure.
Wait in that posture.
Attendez dans cette posture-là. Attendez dans cet état de faiblesse, si vous êtes dans un état de faiblesse. Et si vous n'y êtes pas, entourez-vous de personnes qui le sont. Le Saint-Esprit est incroyable et je veux terminer avec cette dernière histoire. Mon père est aujourd'hui 80 ans. On a énormément d'histoires entre nous. À un moment donné, l'année dernière, je me suis dit... Je veux qu'il connaisse Dieu, je veux qu'il connaisse Jésus. Je veux que mon papa sache ce que je sais et connaisse Jésus de manière personnelle. Le catholicisme, toute la religion et rien de la relation, et la relation, c'est la meilleure chose que tu puisses avoir dans ta vie. On devait retourner en Irlande pour un mariage.
Et
deux semaines avant, le vol a été annulé et c'était là que j'allais prévoir d'évangéliser mon père. Une autre fois, j'avais prévu d'y aller et ça ne s'est pas fait non plus. Et un soir, le Saint-Esprit est venu. Alors, le Saint-Esprit est venu chez moi. Oui, bon, c'est drôle, ouais. Et il a dit, prends des billets maintenant. Il y avait dans 48 heures, on y va seulement pour parler à ton père. Et j'ai dit, Val, prends ma maman à deux côtés, tu la sors de la maison. Et juste avant de prendre l'avion, je me casse l'orteil. J'étais en train de voyager avec un orteil cassé, mais pour aller voir mon père, je rentre voir mon père, je m'assois et je suis anxieux et nerveux. Et j'ai l'impression de vomir à l'intérieur de ma bouche tellement j'ai peur. Parce qu'il faut que je fasse ce truc. Le Saint-Esprit me dit, non, calme-toi, c'est moi qui fais le boulot là. Toi, tu arrives, t'es présent, c'est tout. Mais là, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, et moi je deviens de plus en plus frustré. Et je dis, Saint-Esprit, Jésus, s'il te plaît, protège-nous. C'était comme un effet de force est venu par-dessus nous. J'ai demandé à mon père de me pardonner. Je lui ai pardonné, lui, pour les moments où il me battait. On a eu une super conversation et j'ai dit, Saint-Esprit, viens, s'il te plaît. Et l'atmosphère dans la chambre a changé. Tout a changé. C'était comme s'il y avait du verre par-dessus et je m'assois et je l'amène à travers les... Le Saint-Esprit m'a donné toutes les paroles pour dire ce qu'il fallait pour venir à Jésus. Et j'ai dit, de ta propre volonté, de ta propre volition, après tout ce que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Sauveur? Et ses yeux étaient clairs, le plus clair que j'ai jamais vu dans les dernières 20 années. Et il a dit 1000 fois oui. Et j'ai dit, oh, incroyable. C'était ce moment-là, dans le timing de Dieu. Ce n'était pas les autres moments. Ce n'était pas la fois d'après, c'était juste se soumettre au timing de Dieu. Et je veux vous encourager aujourd'hui à être dans une posture d'attente active et de soumission à Dieu et de